Vous écoutez On lit pour vous.
Sirop d'érable frelaté. Des inquiétudes quant à l'impact sur la réputation de l'industrie. Un texte de Pierre Saint-Arnaud, paru le 16 avril 2026 dans Novo Info. Le président de l'Union des producteurs agricoles, UPA, Martin Caron, se désole du tort causé à la réputation des acériculteurs à la suite du dévoilement par Radio-Canada que l'un d'entre eux, Steve Bourdeau, de Saint-Chrysostome en Montérégie, coupait son sirop d'érable avec jusqu'à 50 % de sucre de canne. Les producteurs acéricoles, ils ont une fierté. Ce sont des gardiens de patrimoine de génération en génération. Quand ça arrive, une situation comme ça, les gens peuvent remettre en question toute cette communauté-là qui est fière d'avoir un produit de qualité. Et puis là, du jour au lendemain, ça soulève le doute, a-t-il déclaré en entrevue avec la presse canadienne jeudi. Je peux comprendre les gens, les consommateurs, qui se posent des questions, a-t-il poursuivi. Mais je veux les rassurer en même temps, parce que les gens mettent quand même leur nom sur les étiquettes. C'est une fierté. Autant qu'ici, au Québec, on met notre nom sur les silos, sur les fermes, autant les producteurs acéricoles sont fiers de mettre leur érablière sur les cannes. Un producteur veut avoir un produit de qualité par rapport à ça. Il note que cet incident survient alors que la consommation de sirop d'érable est en hausse, non seulement au Québec, mais aussi à l'échelle planétaire. Ça nous amène à dire, que ce soit avec le ministère de l'Agriculture du Québec ou avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, il va falloir trouver une façon de faire pour contrôler davantage ces aspects-là, pour ne pas que ça arrive, avance-t-il. Une pratique de vente marginale. Il rappelle toutefois que tout le sirop qui se retrouve dans ce que l'industrie appelle la réserve stratégique de sirop d'érable est analysé avant d'y être entreposé. Les gens là-bas n'ont eu aucun sirop qui a été altéré en je ne sais pas combien d'années. Il n'y a jamais eu rien. Les gens qui y envoient des bidons, il y a des tests qui sont faits. Il n'y a pas eu d'altération. La réserve stratégique a un contrôle vraiment efficace présentement. Il faut préciser que Steve Bourdeau vendait directement son sirop aux détaillants et épiciers, évitant ainsi les contrôles des producteurs et productrices acéricoles du Québec, PPAQ. Or, seulement 2 % des volumes de sirop d'érable sont distribués de cette manière. Il s'agit d'ailleurs de la première fois de leur histoire que les PPAQ sont confrontés à une falsification du sirop d'érable. La réputation des producteurs québécois est cruciale dans un marché où le Québec est responsable de 72 % de la production mondiale du nectar ambré. C'était sirop d'érable frelaté, des inquiétudes quant à l'impact sur la réputation de l'industrie. Un texte de Pierre Saint-Arnaud, paru le 16 avril 2026 dans Novo Info.
Sportif un jour, sportif toujours. Un texte de Julie Gazaille, paru le 10 avril 2026. À l'heure où l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme quant à la sédentarité chez les jeunes, près de 80 % des adolescents dans le monde ne bougent pas suffisamment. Une étude longitudinale québécoise apporte un éclairage sur les origines de ces habitudes. Menée par Kianou Charandian et la professeure Linda Pagani de l'Université de Montréal, avec la collaboration du Dr Marc Tremblay de l'Université d'Ottawa, la recherche démontre que les comportements liés au mouvement chez les tout-petits à la maison, jeux actifs avec les parents, faible exposition aux écrans et sommeil adéquat, préfigurent un mode de vie nettement plus actif une décennie plus tard. En analysant les données, nous avons constaté que moins de 1 enfant sur 10 respectait naturellement les 3 recommandations quotidiennes en matière de mouvement. Le jeu actif, un temps d'écran limité et un sommeil suffisant, souligne Kianush Arandian. Ces habitudes précoces posent les fondations de la façon dont les enfants choisiront d'occuper leur temps à l'adolescence. Près de 1 700 enfants suivis pendant plus de 10 ans. L'étude s'appuie sur les données de 1 668 enfants, 849 garçons et 819 filles, issus de l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, une cohorte populationnelle représentative. Les parents ont fourni des informations sur la fréquence des loisirs actifs partagés avec leurs enfants à l'âge de 2,5 ans, le temps quotidien passé devant les écrans ainsi que la durée moyenne de sommeil. Ces mêmes enfants ont ensuite été interrogés à l'âge de 12 ans sur leurs habitudes de jeu extérieur et leur niveau d'activité physique durant leurs loisirs. Afin d'écarter d'autres explications possibles, les chercheurs ont contrôlé un large éventail de facteurs, notamment le tempérament des enfants, l'indice de masse corporelle, les capacités neurocognitives, les symptômes dépressifs maternels, ainsi que le niveau de scolarité et le revenu familial. Les analyses ont été conduites séparément pour les filles et les garçons afin de tenir compte de leur trajectoire développementale distincte. Ce qui distingue cette étude des travaux antérieurs. Si la question du lien entre les habitudes durant la petite enfance et le mode de vie à l'adolescence n'est pas nouvelle, les preuves scientifiques solides faisait jusqu'ici défaut. Ce qui distingue cette recherche est la robustesse de sa démonstration. Une cohorte représentative, un suivi de plus de 10 ans et un contrôle rigoureux de nombreux facteurs individuels et familiaux. Ces éléments permettent d'établir avec confiance que les habitudes de mouvement adoptées dès 2,5 ans ont des répercussions mesurables une décennie plus tard. Des habitudes qui persistent 10 ans plus tard. Les résultats montrent que les enfants qui participaient quotidiennement à des activités physiques avec un parent ou qui passaient moins d'une heure par jour devant les écrans étaient significativement plus actifs à l'adolescence. Chaque bonne habitude de mouvement supplémentaire à 2,5 ans était associé à environ 5 minutes de jeux extérieurs de plus par jour à 12 ans, tant chez les garçons que chez les filles. Chez les filles, ces habitudes étaient également liées à des niveaux plus élevés d'activité physique durant les loisirs. Ces associations demeurent significatives, même après avoir pris en compte l'ensemble des facteurs individuels et familiaux. La complicité des parents avec les tout-petits, jouer, bouger, être actifs ensemble, apparaît comme le levier le plus puissant pour l'établissement d'habitudes saines à long terme, souligne Kianush Arandian. L'adolescence des filles, une fenêtre de vulnérabilité. Les résultats mettent en lumière une réalité préoccupante. À l'adolescence, les filles sont particulièrement exposées au risque de sédentarité. À 12 ans, seulement 14,9% des filles étaient considérées comme actives dans leurs loisirs, contre 24,5% des garçons. En limitant dès le plus jeune âge le temps consacré aux écrans et en favorisant le jeu actif, les parents peuvent contribuer à réduire ces écarts. Des recommandations claires. Les habitudes familiales engendrent les habitudes individuelles tout au long du développement de l'enfant, résume la professeure Pagani. En favorisant le jeu actif, en encadrant l'usage des écrans et en veillant à un sommeil de qualité dès la petite enfance, les parents exercent une influence durable sur le bien-être des enfants. L'étude souligne également l'importance de diffuser plus largement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour les jeunes enfants, notamment en matière d'activité physique, de temps d'écran et de sommeil. C'était « Sportif un jour, sportif toujours », un texte de Julie Gazaille, paru le 10 avril 2026. Thank you.
Petit Maison, Gros Bonheur, un texte de Rose-Aimée Autant-Témorin paru le 3 avril 2026 dans la presse. La maison est un symbole de réussite, un badge qui indique son rang social, un trophée que l'on espère toujours plus brillant. Et si on faisait fausse route avec nos rêves de grosses cabanes? Avez-vous magasiné un toit récemment? Les prix sont absurdes. Pourtant, le voisin gonflable est encore là, la prétendue liberté qui vient avec le sous-sol fini, les deux salles de bain et la penderie de type walk-in existent toujours. L'injonction de la grosse maison semble ancrée profondément en nous. Et je vous applaudis si vous y êtes complètement imperméable, parce que moi, je ne le suis pas. J'habite dans un 4,5, dans le bureau que je partage avec mon amoureux. Il y a aussi notre équipement de gym, une pile de boîtes de chaussures, 9, je viens de les compter, et une chaise qui n'est d'aucune utilité, mais qu'on ne sait pas où mettre. On n'a pas de table à manger parce que le rez-de-chaussée est trop petit. On apporte nos manteaux d'hiver chez mes beaux-parents dès que le mercure monte, à défaut d'espace pour les entreposer. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour être bien? À 100%. Est-ce que mes amis français trouvent que j'habite dans un manoir? Absolument. Est-ce que je rêve quand même d'une pièce supplémentaire? Oui. Comment s'explique cette impression qu'on serait mieux dans plus grand? Et surtout, est-ce que cette intuition est juste? Si je me fie à Colin Pratt de l'Institut de recherche et d'information socio-économique au Québec, en 60 ans, la taille moyenne de la maison unifamiliale neuve a augmenté de 76%. Et on ne peut pas dire que la taille des ménages a suivi la même courbe, hein? Plus encore, le Canada est le pays de l'OCDE qui compte le plus grand nombre de pièces par habitant, 2,6, pour une moyenne de 1,7 parmi tous les pays membres. Si la taille de notre demeure reflète notre succès, alors nous avons théoriquement le vent dans les voiles. Le problème, c'est que « grande maison » peut aussi rimer avec « méchante hypothèque » ou « banlieue et déplacement quotidien ». Dans la chronique « Why smaller houses can lead to happier lives », publiée en janvier dernier dans le Washington Post, Michael G. Corran écrit que ce ne sont pas les grosses cabanes qui nous rendent malheureux, mais bien ce qu'on est prêt à abandonner pour y accéder. Du temps de qualité en famille ou entre amis, et des lieux de rencontre à quelques minutes de marche, par exemple. Ce qui me ramène à mes amis français. En lisant Le Journaliste, j'ai été étonné d'apprendre que les Européens rapportent un plus grand taux de bien-être que les Américains, bien que la taille de leur maison soit significativement plus petite. L'une des hypothèses pour expliquer ce phénomène est que les Européens accordent moins d'importance à la dimension de leur résidence qu'à son emplacement. Ils la veulent connectée à leur réseau social et aux infrastructures publiques. Les Américains, eux, priorisent le confort et le statut liés à leur demeure. Ce qui affecte grandement notre niveau de bonheur, ce sont les humains que nous croisons. C'est vrai dans notre quartier, comme sous notre toit. Si je paraphrase Michael J. Corran, vivre seul ou avec une personne peut favoriser l'isolement. À l'autre bout du spectre, vivre entassé dans moins de 140 pieds carrés par personne peut générer du stress et de l'anxiété, selon une étude menée en Asie. Le bonheur se situerait quelque part entre les deux. Que notre maison soit remplie d'enfants, de colocataires ou d'amis en visite. Le bonheur est un luxe alloué aux personnes qui n'ont pas à se battre pour dormir en sécurité, j'en suis bien consciente. D'ailleurs, les recherches démontrent qu'une fois qu'on a l'espace nécessaire pour être à l'aise et en sûreté, les pièces supplémentaires d'une maison n'apportent rien de plus à la joie de ses résidents. Au contraire, elles peuvent les isoler. Ça me fait penser à un dossier de The Atlantic dont je vous ai déjà parlé. The Antisocial Century. Là-dedans, le journaliste Derek Thompson nous apprend que les nouvelles maisons bâties aux États-Unis tournent le dos aux aires ouvertes. Pourquoi? Parce qu'on privilégie les pièces fermées pouvant chacune contenir une télévision. Chacun sa bulle, son écran et sa solitude. Habiter dans plus petit, c'est croiser plus souvent nos proches. Et il est peut-être là le secret du bonheur, au fond. Évidemment, il faut aimer les 10 proches pour que ça fonctionne. On n'est pas plus joyeux quand on réside avec des gens qui nous tapent sur les nerfs par nécessité. Mais si nous avons la chance de choisir notre milieu de vie, c'est la puissance de nos liens qui devrait dicter nos décisions, davantage que le fantasme socialement imposé de crier à tout le quartier « Je suis un adulte qui a réussi ». Sur ce, est-ce que quelqu'un cherche une chaise gratuite ? Il faudrait que je fasse de la place dans le bureau. C'était « Petite maison, gros bonheur ». Un texte de Rosemée Autant-Témorin, paru le 3 avril 2026 dans la presse.
Un emploi complexe réduit la probabilité de démence. Un texte de Mary Kim du Washington Post, paru le 6 avril 2026 dans la presse. L'éducation, c'est bien, pour toutes sortes de raisons, y compris parce qu'elle pourrait réduire le risque de démence. Selon une étude récente, chaque année supplémentaire de scolarisation réduit de 7% le risque de maladie d'Alzheimer ou d'autres types de démence. Mais il y a aussi les emplois qu'on occupe après les études. Le type de travail qu'on fait tout au long de sa vie pourrait être tout aussi important, sinon plus. Un emploi qui implique la prise de décision ou de la créativité, plutôt que des tâches répétitives ou manuelles, semble aider à garder l'esprit vif et actif. Plusieurs études suggèrent que si les gens occupent des emplois complexes durant leur vie, ils ont moins de risques de démence plus tard, affirme Jinsil Ashyun, professeure adjointe de neurologie au Albert Einstein College of Medicine à New York. Des postes comme gestionnaire, enseignant, avocat et médecin sont considérés comme des emplois à complexité élevée, plus que travailler dans un bureau, dans les transports ou sur une chaîne de montage. Participer à des activités mentalement stimulantes tout au long de la vie semble aider à préserver la santé cérébrale en fin de vie et augmenter la réserve cognitive, la capacité du cerveau à faire face aux changements liés à l'âge ou à la maladie. Mais pas de souci si votre emploi ne répond pas aux critères. Lire, socialiser, faire du bénévolat et de nombreuses autres activités améliorent aussi la réserve cognitive. Pourquoi le travail pourrait être lié au risque de démence? Nous passons la majeure partie de notre journée au travail, au moins 8 heures par jour. Le tiers de notre temps est consacré au travail, parfois plus, résume Naed Mukaddam, professeur de psychiatrie au University College London. C'est en grande partie ce dans quoi notre cerveau est engagé et ça a un effet contributif important sur le développement de la réserve cognitive. Dans une étude récente, Mme Mukaddam et ses collègues ont étudié les facteurs qui pourraient influencer l'effet protecteur de l'éducation contre la démence. Leur analyse porte sur 384 284 participants et tient compte de comportements comme la consommation d'alcool, le tabagisme et l'exercice, de maladies comme l'hypertension et le diabète, de la complexité professionnelle et du revenu. Conclusion : la complexité professionnelle est la principale raison pour laquelle plus d'instructions tend à réduire le risque de démence. Elle représente plus de 70% de ce lien. Les gens qui ont plus d'instructions tendent à obtenir des emplois mieux payés et plus complexes. Ensuite, les bénéfices pour leur santé physique et cognitive s'accumulent, dit Mme Mukaddam. Plusieurs études établissent un lien entre revenus plus élevés et risques de démence moindres. Les chercheurs en déduisent que la complexité de l'emploi joue probablement un rôle important dans cette relation. Complexité professionnelle. De même, selon une étude co-signée par Mme Ashyun en 2021, la complexité professionnelle est prédictive de la démence en fin de vie, indépendamment de l'éducation. L'étude a examiné les effets sur le temps de survie sans démence. Le nombre d'années durant lesquelles une personne a vécu avant un diagnostic de démence, chez 10 195 participants de 6 pays.
les diplômés du secondaire vivaient 26 % plus longtemps sans démence que les personnes ayant quitté l'école vers le milieu du secondaire. Madame Ashyoun émet l'hypothèse que la stimulation mentale d'un emploi complexe construit la réserve cognitive, ce qui aide les gens à résister au déclin cognitif et à rester mentalement vifs plus longtemps, même en présence de plaques nocives observées dans les cerveaux affectés par l'Alzheimer. L'hypothèse de la réserve cognitive suggère que si les gens font des activités cognitivement enrichissantes, alors leur cerveau a un réseau plus efficace, explique Mme Ashyoun. En dépit d'éventuelles pathologies cérébrales, ils ont d'autres voies pour que différentes parties du cerveau puissent encore communiquer entre elles. Que faire si votre emploi n'est pas particulièrement complexe? Ne cessez jamais d'apprendre. L'instruction augmente la réserve cognitive. C'est comme un muscle, explique Mme Moukadam. En plus de lire régulièrement, suivez des cours offerts par le service des loisirs de votre municipalité ou des établissements d'enseignement de votre région. Trouvez des passe-temps enrichissants. Certains loisirs, jeux de société ou activités artisanales comme le tricot et la courte pointe sont bénéfiques pour le cerveau. Devenez bénévole. Se sentir utile peut aider à préserver la fonction cognitive. Consacrer son temps à une cause valable peut solidifier ce sentiment d'utilité, vous enseigner de nouvelles compétences et élargir votre réseau social. Restez socialement connecté. Des liens sociaux solides sont liés à une plus grande réserve cognitive. La santé cardiovasculaire a été une préoccupation pendant plusieurs décennies. Donc, c'est formidable que les gens s'intéressent maintenant à ce qu'ils peuvent faire pour la santé du cerveau, dit Mme Moukadam. Comme on vit plus longtemps, c'est important de préserver cette fonction cérébrale pour qu'on puisse continuer à utiliser notre cerveau aussi longtemps que possible. C'était « Un emploi complexe réduit la probabilité de démence », un texte de Mary Kim du Washington Post, paru le 6 avril 2026 dans la presse.
Albert Hoffman et la découverte du LSD. Un texte de Keston Nates, paru le 16 avril 2018 dans Swiss Info. Le LSD a été découvert en 1943 à Bâle par le chimiste suisse Albert Hoffman. Cette substance, qui marquera profondément la culture et la recherche scientifique du XXe siècle, est d'abord née dans un contexte strictement pharmaceutique. Albert Hoffman, né en 1906, étudiait les alcaloïdes de l'ergot de seigle lorsqu'il a synthétisé en 1938 un composé nommé diéthylamide de l'acide lysergique ou LSD-25. À l'époque, les premiers tests n'ayant rien révélé de particulier, la substance a été mise de côté. Convaincu de son potentiel, Hoffman décide quelques années plus tard de reprendre ses recherches. Une découverte accidentelle. Le 16 avril 1943, alors qu'il manipule le LSD, une petite quantité entre en contact avec sa peau. Peu après, il ressent des effets inhabituels. Vertige, anxiété, modification de la perception et sensations intenses. Intrigué, il décide de répéter l'expérience quelques jours plus tard, cette fois de manière volontaire. Les effets observés confirment le potentiel puissant de la substance. À ce moment, il est encore loin d'imaginer l'impact que cette découverte aura sur la science et la société. Des usages médicaux explorés. Dans les années qui suivent, le LSD est étudié pour ses applications en psychiatrie et en neurologie. Il est utilisé comme outil thérapeutique pour aider les patients à explorer leurs émotions et leurs expériences internes. Des recherches suggèrent qu'il pourrait être utile dans le traitement de certaines dépendances ou dans l'accompagnement de patients atteints de maladies graves. Le LSD est alors considéré comme un moyen d'accéder à des états de conscience permettant de mieux comprendre certains troubles psychologiques. Une diffusion culturelle majeure. À partir de la fin des années 1950, le LSD quitte progressivement le cadre médical pour s'inscrire dans la culture populaire. Il devient associé au mouvement psychédélique et à une exploration plus large de la conscience. Des artistes et musiciens s'en inspirent, contribuant à l'émergence d'une esthétique et d'une culture propre à cette période. Cette diffusion s'accompagne également d'expérimentations variées, tant dans les milieux artistiques que dans d'autres contextes. Interdiction et controverse. Au milieu des années 1960, face à une utilisation de plus en plus répandue et non contrôlée, plusieurs pays décident d'interdire le LSD. Sa production pharmaceutique est arrêtée et la substance est classée parmi les drogues illégales. Malgré cela, son usage ne disparaît pas complètement et connaît même des résurgences à différentes périodes. Un intérêt scientifique renouvelé. Depuis plusieurs années, le LSD suscite à nouveau l'intérêt de la recherche scientifique. Des études récentes s'intéressent à ses effets sur le cerveau, notamment sur les régions impliquées dans la gestion des émotions. Ces travaux explorent son potentiel dans le traitement de troubles comme la dépression, l'anxiété ou certaines dépendances. Ils s'inscrivent dans un mouvement plus large de réévaluation des substances psychédéliques en contexte médical. Une substance à manier avec prudence. Albert Hoffman lui-même a toujours insisté sur le fait que le LSD ne devait pas être considéré comme une simple drogue récréative. Selon lui, son utilisation sans encadrement peut comporter des risques importants. Il voyait plutôt cette substance comme un outil potentiellement utile à condition d'être utilisé dans un cadre contrôlé et avec une compréhension adéquate de ses effets. C'était Albert Hoffman et la découverte du LSD, un texte de Keystone, ATS, paru le 16 avril 2018 dans Swiss Info.